Et dans cette spéciale musique de film, avec évidemment un titre de Seo George, bande originale de l'excellent Aquatic Life.
Eh oui, The Life Aquatic with Steve Zissou. C'est le quatrième film de Wes Anderson, il est sorti en 2004. Comme souvent dans les films de Wes Anderson, la BO est super soignée. Oui. Mark Mothersbaugh, un des fondateurs de Devo, a composé des titres inédits spécialement pour le film, mais aussi, et peut-être surtout, on a aussi Seo George qui joue le rôle de Pelé dos Santos dans le film, qui reprend une dizaine de chansons de Bowie en portugais et en acoustique, dont le très fameux Life on Mars que l'on vient de s'écouter. Excellent film avec Bill Murray, Owen Wilson, Kate Blanchett, Willem Dafoe, Jeff Goldblum notamment, un film culte hein, dans mon cercle d'amis. Ouais. On se le repasse assez souvent. C'est un des meilleurs Wes Anderson.
Excellente BO. Ouais, avec une vraiment très très bonne BO. Ouais.
Comme très souvent dans les films de Wes Anderson.
Dans les Wes Anderson. Sans transition, Yannick, on se quitte avec un dernier titre que tu as choisi. Bande originale du film The Crow.
Eh oui, ce titre qu'on va écouter fait partie de la bande originale de mes 14 ans, hein, puisqu'il est extrait, tu viens de le dire, de la BO de The Crow d'Alex Proyas. Nine Inch Nails reprend pour le film Dead Souls, qui est une reprise d'un titre de Joy Division. Excellente BO que la BO de The Crow, puisqu'on y retrouve toute la crème du hard rock des années 90 hein, qui était présente à l'époque. Il y a Stone Temple Pilots, Jesus and Mary Chain, Pantera, qui est un de mes groupes préférés étant adolescent, ou bien encore Helmet sont présents sur cette BO que l'on vous recommande extrêmement chaudement. Et je sais pas si je vous recommande. T'as vu la bande-annonce du nouveau The Crow qui va sortir ?
Ah non, je n'ai pas vu ça.
Bon, faut pas juger un film à sa bande-annonce, mais ça s'annonce pas aussi bien.
Bah, en même temps, dès qu'il y a un petit peu de réchauffé, c'est pas forcément. Il vaut mieux revenir au classique.
Bah, en plus, The Crow, c'est le film dans lequel Brandon Lee, qui est l'acteur principal, est décédé suite à une. Bah, comme c'est arrivé récemment sur le tournage de. Je sais plus quel film là, où le flingue n'était pas censé être chargé, puis il l'était.
Ah, oui.
Et a tué l'acteur principal. Voilà. C'est une triste histoire pour se quitter, on va pas se quitter bien. Comme ça.
Bah, en même temps, on se quitte avec Nine Inch Nails, c'était pas le plus joyeux, mais c'est pas grave.
Ouais, oh, mais bouge bien.
Ouais, ça va envoyer.
La bonne nouvelle, hein, pour pas finir sur une note déprimante, c'est que le mois prochain, c'est notre traditionnel spécial Eurovision.
Ah oui, avec pas mal de belles découvertes d'artistes européens et européennes.
Les européennes.
Qu'on est allé chercher dans les contrées les plus lointaines.
Ah oui, on y va avec notre petit sac à dos là.
Voilà, on vous en dit pas plus, mais soyez au rendez-vous, ce sera le mois prochain, au mois de mai. On espère que vous avez apprécié cette spéciale en avril, ne te découvre pas d'un film. On se quitte Yannick avec Nine Inch Nails, extrait de la bande originale de The Crow. Et puis on se dit à bientôt.
Et on vous embrasse.
Et voilà.
Avec votre permission.
Allez, c'est parti, on y va.
Et bonne soirée à toutes et à tous. Et puis au mois prochain.
À bientôt, salut.
Dans Au-delà du RL sur Radio Libertaire. Ciao.
That pulled me to another day of joy. sono le 22:30.
Radio Libertaire, Radio Libertaire. Hello, bonsoir. Nous sommes de nouveau en direct sur l'antenne de Radio Libertaire en ce vendredi soir du mois d'avril. Et donc, l'émission est en train de commencer. Et est-ce que j'ouvre les micros ? Hello Serge.
Hello Enrique.
Hello, hello, hello. Est-ce que Yves est prêt? Ça n'a pas l'air.
Non.
Ok. Bonsoir à tous, donc, et bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est le 89.4 sur la bande FM parisienne. Et puis, c'est aussi en DAB sur internet anarchiste.info et radio-libertaire.org. Radio-libertaire.org. Je commence. Alors, est-ce que Yves est...
Présent. Oui.
D'accord, ok.
Bonjour.
Bonsoir.
Je devrais sous peu retrouver Guy.
On peut éviter les cognages sur la table. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, Guy est en train de discuter dans l'entrée. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les petites annonces. Pourquoi petites, j'en sais rien. Enfin, avec les annonces. Les annonces
de Publico.
Tu fais bien de le préciser, Serge. Mercredi 17 avril, 20h, Ciné Commune, Changer de vie, La vie et l'œuvre de José Mario Branco. C'est un film de Nelson Guerrero et Pedro Fidalgo qui sera présent lors de cette projection débat. J'ai toujours pas été voir qui était José Mario Branco, en fait, hein, Voilà. Mercredi 24 avril, 19h, carte blanche à la CRIRAD. C'est une campagne fédérale de la Fédération anarchiste anti-nucléaire. On passe au vendredi 26 avril, 19h, présentation du livre La pieuvre nucléaire par le réseau MACNO de la Fédération anarchiste, et c'est toujours dans le cadre de la campagne anti-nucléaire. Samedi 27 avril enfin, 16h, 40 ans de lutte anti-nucléaire non violente en Allemagne, présenté par Lou Marin, toujours dans le cadre de cette campagne anti-nucléaire. Bonsoir Guy.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Henrik.
Bonsoir. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant des événements à venir pour le mois d'avril, Guy?
Non, il n'y a quand même pas énormément de choses, mais c'est des grosses choses, voilà, oui.
Ok, d'accord.
Je t'ai écouté là, tout ce que tu as présenté, que j'ai lu tout à l'heure aussi durant Radio Esperanto. Ouais.
Ah d'accord, tu l'as déjà fait. Mais voilà, bon, je le fais pour nous.
Et puis la formation, que il y a un livre qui est sorti sur le contrôle du nucléaire là, le petit livret, je vous l'ai montré la semaine dernière. Hein, voilà, c'est un petit livret qui fait même pas le format A5, un tout petit peu plus court en hauteur, mais qui fait presque 200 pages, hein, et puis qui s'appelle La pieuvre nucléaire. Voilà.
Ok, d'accord. Ouais. Eh bien, on commence le programme musical. Enfin, il est déjà commencé et il continue pour une première pause musicale.
Yes. sur ce plateau. Il a un pass. Il a rêvé ce que le public ne sait pas, ce qu'il va voir. Oui, c'est intrigue.
Since then,
you think you're going to see her again?
Oh yes, I will see her again. into my Ku Klux Klan man family, and my mother will go into her Jesus himself family. She'll be Queen Elizabeth, King and Queen Philip, my parents, and I'll be little Charlie Officer.
Oh, you don't really believe that?
I do! It's true, honestly. It is. Yes.
Nous interrompons les programmes de Radio Libertaire tout simplement pour diffuser cette émission donc de poste dans le radio show Radio Libertaire évidemment. Alors je toucherai un petit mot tout à l'heure sur une partie de la programmation musicale qui nous voit voyager dans le temps comme d'habitude. Alors les réticents au passéisme, ce n'est pas encore ça. Passez votre chemin, et quant aux autres, restez là. Des années 30 aux années 2000 quand même, même 2024, ce sera le corps de notre voyage, en fait, la temporalité, enfin le temps entre ces deux périodes. Voilà, et puis une autre annonce plus personnelle: il se peut que nous soyons absents à partir de la semaine prochaine, et ce pour 2 ou 3 semaines d'affilée, pour cause de vacances. Voilà. Donc il n'y aura pas d'émission à partir de la semaine prochaine normalement, et ce jusque au début mai. Voilà. Après c'est quelques infos. Ah, j'adore.
J'aime bien le fond sonore, c'est très bien.
Ouais, surtout que personne ne prend la parole.
Ah. Alors c'est Yves qui va prendre la parole alors.
Ah, Yves.
Parce qu'il est dans ses papiers actuellement.
On les entend.
Il y a un
sujet,
oui, on les entend bien. Et un sujet, effectivement, il m'a parlé de plusieurs sujets, notamment un sujet sur l'agro-industrie, justement.
Oh,
et ça, c'est effectivement très important. Parce
on
ne
va pas y couper.
On ne va pas y couper, mais c'est très important parce que l'agriculture est en train de devenir un objet de spéculation. Alors que l'agriculture, c'est pas ça, quoi. C'est la terre, n'est-ce pas, Yves?
Ouais. On va commencer léger par
par les bouteilles, le caca dans les bouteilles. Non.
Non.
Non. Je me suis trompé.
Non, c'est un petit article dans le Canard Enchaîné du 10 avril. Interdiction de forêt par Jean-Luc Porquet.
Oui.
Des forêts privées.
On a une loi du 2 février 2023 qui vise à limiter l'engrillagement des domaines privés. Très pratiqué en Sologne notamment, il piège les animaux sauvages et fait s'effondrer la biodiversité. Et en contrepartie, les sénateurs ont voulu amadouer les propriétaires avec un beau cadeau. Moins de grillage certes, mais fini les promeneurs. Sur le moment, un petit article de loi établissant que le simple fait de se promener dans une propriété rurale ou forestière était puni d'une contravention de 4e siècle, classe, c'est-à-dire 135 € d'amende, et ça peut monter jusqu'à 750, et donc c'est passé inaperçu. Il a fallu que 2 grands propriétaires fonciers prennent cet article au pied de la lettre et multiplient les panneaux « propriété privée défense d'entrée » pour qu'on découvre cette aberration. Gag, il s'agit de 2 marquis. À Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, le marquis Jacques de Panis-Passis possède 700 hectares un 7 avec 2 zéros d'après, hein, donc 700.
C'est ça, oui.
Soit le tiers de la surface de la ville. Dans la réserve naturelle des Hautes-Chartreuses, le marquis Bruno de Quinsonnas-Oudinot possède 750 hectares, il l'a donc plus grosse que l'autre. Le premier a mis en faction des gardes de chasse privés. Le second interdit la promenade mais continue d'inviter les fortunés clients étrangers à tirer le chamois sur ses terres. Manifs et pétitions n'y ont rien fait. Il y a eu un article apparemment dans un journal qui s'appelle Reporter du 16-10-2023 et du 25-11-2023. Alors deux députés écolos, Lisa Belluco et Jérémy Yordanov, se sont mobilisés. Ils ont fait remarquer que depuis l'ancien régime, prévalait une zone grise donnant à chacun libre accès à la nature, aux chemins de campagne comme aux sentiers forestiers, à condition évidemment de ne rien y dégrader. Que 60%, 75% des forêts françaises étaient privées, ils ont déposé cette simple proposition de loi. L'article 226-4-3 du Code pénal est abrogé. En commission, tous ensemble, ouais, les députés macronistes, LR et RN l'ont rejeté. Et il conclut, le quinquennat sera anti-écologique ou ne sera pas. Voilà, l'article commençait par « Qu'est-ce qu'un monde où on ne pourra plus divaguer ?» Ce sera un monde où l'urbain, quand il se cassera sa laisse, sera encore plus redoutable que le salopard qu'on a voulu modérer dans ses excursions. Voilà longtemps que le regretté naturaliste François Terrasson mettait en garde les élus et les aménageurs qui, sous prétexte de lutter contre la divagation des promeneurs, veulent supprimer les chemins sauvages.
Et oui, mais en même temps, quand tu vois l'état de certains endroits, il faut quand même avouer, il faut être franc, que les gens sont quand même dégueulasses. Les gens sont sales, ils jettent tout partout. Alors après,
L'article fait plof. Je revendique la liberté d'aller sur les sentiers.
Alors après,
sont dans les forêts, même s'il y a des crottes à droite, à gauche.
Non, c'est pas des crottes, c'est tu te retrouves en forêt avec des emballages de nourriture bio jetés partout. Donc attends, c'est bon quoi. Donc après, que les marquis privatisent, c'est une autre question. Mais bon, les gens sont sales, quoi.
Bon,
finis ton article.
Oui, il a fini mon article.
Ah d'accord, il a fait plouf.
C'était juste...
Eh bien moi, si j'étais à la place de ces marquis, j'aurais privatisé aussi. Voilà.
Bien.
Rien que pour faire chier.
Heureusement qu'il ne l'est pas.
Non mais les gens sont crades, quoi.
C'est vrai.
Les gens sont sales, enfin.
Mais non, mais attends, à partir du moment où il y a du public, on sait qu'il y a des détritus. Donc ensuite, c'est pas les gens qui sont sales, c'est nous qui ramassons mal et qui faisons mal. De toute façon, quand il y a du passage...
Non mais qu'est-ce que c'est que cette pire ?
De même que quand il y a une collectivité qui donne à manger, il y a de la fauche sur les petites cuillères.
Non mais c'est de la pirouette,
voilà,
là.
Il faut commander
en
avance.
C'est de la pirouette, là. Il
faut tenir compte de comment sont les gens. Donc il y a eu des gens qui laissent des détritus, c'est l'occasion de faire travailler des gens pour les ramasser. Mais de là à interdire les chemins en forêt, je suis désolé, mais c'est quand même un peu gros.
Bon, d'accord. Ok, avec tes pirouettes.
Nous sommes
là,
donc en désaccord flagrant sur Radio Libertaire.
Ah oui, non, mais c'est les pirouettes.
Il est 21h30 et nous sommes le 12 avril.
Tu ouvres ta forêt aux gens, donc tu sais qu'ils vont être dégueulasses, c'est pas grave.
Moi, j'ai plusieurs fois campé sur des terrains privés quand j'étais beaucoup plus jeune. Au bout d'un petit moment, il y avait un agriculteur qui venait. Donc, je lui disais, je me suis installé là, excusez-moi, je n'ai pas vu où je pouvais demander. Il m'a dit, c'est pas grave du tout. Il me disait, c'est pas grave du tout, simplement, laissez pas de détritus. Voilà, c'est tout ce qu'il demande, en général.
Oui, ça se passe bien.
Et notamment, une fois dans le massif de la Chartreuse, effectivement.
Oui, ah bon. Oui.
Enfin, moi, il faut dire que je campais partout où j'avais envie. Hein.
Ouais. C'est peut-être fini ce temps-là.
Je n'ai plus l'âge de le faire, mais j'espère qu'il y a encore des gens qui passent des vacances comme ça.
Je croyais.
Je ne sais pas si c'est fini. Il y a des gens qui achètent des queues de chat qui sont toutes petites. Je me dis, c'est idéal pour aller dans ce genre de situation. Et puis tu plantes la tente quand la nuit tombe et tu la déplantes le matin et voilà, c'est bon.
Ah, ok. J'aime pas le camping.
On avait compris.
Ah, d'accord, oui.
J'aime pas le camping du tout. Voilà. Et j'aime pas me balader dans la nature et voir des détritus. Parce que moi, j'en laisse pas.
Mais évidemment, puisque tu vas pas dans la nature.
Mais si, je vais dans la nature. Bien sûr que si, je vais dans la nature. Qu'est-ce que... Enfin, il suffit de voir ici, en ville, à quel point... Bon, à des moments, c'est quand même sale, à certains endroits.
Oh oui, oh oui, oh oui.
T'as des poubelles partout.
Et surtout les poubelles, en fait, qui sont fouillées et qui, malheureusement, quand elles sont fouillées, ben, les gens qui les fouillent ben, en foutent partout. Et puis,
C'est pas bien ça.
Ils en foutent partout rentrent pas. Et bon, il y en a certains
Ça c'est un peu limite. Hein.
Oui, il y a certains qui, effectivement, remettent les ordures dans la benne
c'est
à ordures.
C'est anti-pauvre ce que tu dis là.
Oui, je sais, mais souvent, il y a souvent ça, effectivement.
Non, moi je parle simplement des gens qui jettent les trucs par terre. Quoi.
Oui, oui.
Je veux dire, t'es en train de manger un sandwich, pof, tu jettes.
Oui, ça c'est sûr. C'est vu. C'est
voilà quoi.
Ah oui.
Bon. Formidable, ça commence bien. Donc.
Je voulais pas faire du anti-pauvrisme. Non, c'était pas mon intention en tout cas.
Les contenants d'aliments et tout ça, ça va disparaître, je crois. Hein, voilà, ça va changer peut-être aussi.
C'est-à-dire.
Je sais plus, on n'emballera plus dans du plastique ou dans des choses comme ça, quoi.
On emballera dans quoi ?
Il y a d'autres, produits qui vont
dans des feuilles de banane.
Biodégradables très facilement.
Dans des feuilles de banane.
Tu viendras avec ton assiette.
Non, oui, puis on mangera l'assiette.
Tu mangeras l'assiette, oui.
Et puis, non, mais les personnes qui font du camping sont quand même de plus en plus propres quand même maintenant, je trouve. Ils ont conscience de quelque chose.
Ouais.
Non, je ne sais pas.
En montagne,
c'est positif, moi. Oui.
Moi, j'ai tendance à voir par le petit bout négatif de la lorgnette.
Bon, non, je crois que.
En montagne, tu plaisantes. Il y a des montagnes qui sont dégueulassées par les explorateurs, non, les alpinistes.
Ouais, mais
même des cadavres d'alpinistes morts qui ne redescendent jamais. C'est dire qu'ils salissent même la montagne avec leurs carcasses. Oh, c'est vrai, quoi.
Oh, les bandits.
Ah, les bandits, les dégueulasses.
Moi, j'ai fait de la randonnée il y a quelques années de cela.
Ouais.
Et chacun avait son sac en plastique avec les déchets qu'il mettait. Ouais. Et ça ne se mettait pas du tout. Il y avait des règles. Et on ne jetait pas les choses dans la nature. On prenait son sac, on mettait les ordures dans son sac. Et le sac, on le ramenait au camp de base. Pas dans la nature, mais dans la structure en béton, entre guillemets, en dur, et on ramenait nos ordures là-bas, tout simplement. Ça, je m'en souviens très bien, c'était il y a quelques années de cela. Alors, je ne sais pas si, entre-temps, les gens ont changé de comportement, mais non,
ils n'ont pas changé, les gens.
Ouais, tu crois, tu penses ?
Bah oui, je pense. Bah,
c'est-à-dire que c'est les Parisiens qui prennent des habitudes à Paris pour emmerder Hidalgo, il faut exprès jeter. Et ensuite, ils se retrouvent à la montagne et ils oublient que c'est plus Paris et donc ils continuent.
Voilà. Oui,
voilà. Non, mais il y a des. Je ne sais plus quels. Il y a deux ou trois.
Parce que voir quand même des gens en une sorte de voiture genre Porsche, etc., jeter ostensiblement, moi j'étais en bus, une canette de bière par la fenêtre, etc., c'est quand même du vécu. Je trouve ça extraordinaire. Donc c'est pour ça que je me permets ce genre de réflexion que je trouve complètement
amusante. Moi j'ai pas fait. Attends, j'ai pas.
Amusante.
Attends, Yves, moi j'ai pas fait de l'antipauvrisme. Hein. J'ai dit les gens. The people. Donc, the people, les gens, c'est les riches et les pauvres. Et les classes moyennes.
Bah moi, j'ai précisé des gens qui avaient une voiture de sport assez luxueuse.
Non, mais les riches aussi sont sales.
Peut-être qu'ils écoutent, ça m'étonnerait.
Les riches aussi sont sales. Hein. Faut pas croire qu'ils soient plus propres que les autres. Hein. Voilà. Donc, ces deux marquis, là... Bon, j'en sais rien, ce qu'il faut leur faire aux marquis. De toute façon, c'est leur propriété. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ?
C'est à eux.
Bah oui, mais enfin, tu vas pas les forcer, tu vas les forcer.
Non, mais avant...
Je ne sais pas, j'en sais rien.
C'est un texte de loi, hein. C'est un décret. Et donc, ce qu'un décret a fait...
Il y a encore des marquis comme ça.
Ouais. Donc,
bien sûr, il y a des marquis encore.
Et c'est récent.
Il y a des marquis, c'est...
Et c'était une contrepartie sur le fait qu'ils engrillagent les domaines privés. Et ça piège les animaux sauvages. Donc, ils entrent dans un truc, ils n'arrivent plus à se sortir. Donc, c'est problématique. Donc, c'était pour leur faire un cadeau en leur disant « Vous pouvez enlever votre engrillagement des domaines privés, s'il vous plaît. » Voilà.
Ah oui.
Messieurs les propriétaires, vous pourriez enlever, penser à la faune sauvage. S'il vous plaît, messieurs les propriétaires.
Enfin voilà, on... Oui. C'est un sujet complexe.
Messieurs les propriétaires.
Mais les autoroutes payantes canalisent beaucoup les animaux. Hein. Il faut, je crois qu'il n'y a pas assez de passages justement en dessous.
Ouais, parce qu'ils payent pas les péages.
En dessous des autoroutes pour permettre aux animaux non, de bien faire leur migration, etc. De bouger simplement. Ouais.
Est-ce que Guy, tu as un texte qui
La librairie Publico attaquée par l'extrême droite, c'est au mois de mars, ça, ouais.
Ah ouais, allez, vas-y.
Ouais, vendredi 1er mars sur les coups de 18h30, hein, c'est récent quand même. Hein. Une personne a découpillé puis lancé un fumigène à l'intérieur de la librairie, bon, pour remettre le feu, en criant une phrase incompréhensible, puis a pris la fuite à vélo. Heureusement, personne n'a été blessé.
Ah, c'est un facho écolo.
Ouais, ah oui, à vélo. Personne n'a été blessé.
On ne sait pas si c'est un facho.
Ah non. Et même si
parce que, attends, et c'est dit extrême droite, c'est peut-être un communiste.
Ah, ouais.
On n'en sait rien.
On ne sait pas. Et même si le fumigène a fumé toute la librairie, il n'a causé aucun dégât. Un sticker du groupe... Il y a quand même une marque. Hein, un sticker du groupe Les Natifs, groupe parisien qui s'est monté après la dissolution de Génération Identitaire.
Ah oui, d'accord, ok. Donc non, c'est signé, oui.
Voilà.
C'est signé. Oui, je ne voulais pas non plus... créer le trouble. Hein,
bah oui, mais juste... c'était collé sur la façade, ouais.
Ah non, ok, c'est signé, donc voilà, c'est
clairement,
signé.
C'était une signature, et oui, t'as raison.
C'est pas les communistes.
Et puis le 6 mars, là j'ai dit c'est le 1er mars, hein, le
en
6
tout
mars...
cas, il est à vélo.
Et le 6 mars sur les coups de 18h, alors qu'un camarade tournant le dos à la rue pour fermer la porte de la librairie, un projectile est arrivé, donc juste à quelques mètres de lui, s'est brisé sur le trottoir. Heureusement, notre compagnon n'a pas été touché, mais cela nous a fait penser que cet incident est lié au précédent. Ces attaques revendiquées par ce groupe identitaire parisien ne doivent pas nous duper. Voilà, ces événements arrivent alors que les discours d'extrême droite en France sont décomplexés et que plus récemment, plus présents même dans le débat public. Les chaînes de télé comme CNews, BFM, C8, etc. déversent discours racistes, propagande antisociale, réactionnaire, à longueur de journée. Le RN, ennemi des travailleurs, travailleuses et des classes populaires, est complètement dédiabolisé.
Oui.
Et oui, pour être considéré comme un parti normal, voilà, sur le spectre politique. Pas pour nous, mais apparemment, oui, pour beaucoup de personnes. Alors, récemment... Ouais. L'ignoble loi immigration, le projet de réforme sur le droit du sol, ou encore l'interdiction de l'abaya à l'école, participe à légitimer et ouvrir la voie au courant fascisant. Et tout cela s'accompagne évidemment d'un renforcement des inégalités sociales. Alors la Fédération anarchiste affirme sa solidarité avec les compagnes...
Enfin, s'accompagne d'inégalités sociales, je voudrais juste mettre un bémol, mais les inégalités sociales, elles existent depuis tout le temps, toujours. Hein.
Exactement, oui.
Quand même, hein, je veux dire, c'est pas récent. Hein.
Donc, effectivement, nous, on est en solidarité avec les compagnons de Publico.
Oui.
Voilà. Mais également, on tient à réaffirmer la solidarité avec toutes les personnes qui subissent les violences de l'extrême droite et ou des politiques racistes de l'État, en particulier les personnes racisées et les migrants. Donc la Fédération anarchiste réaffirme sa volonté et son action de renforcer la lutte antifasciste, notamment à travers ses groupes locaux et sa campagne fédérale antifasciste. Voilà.
Approche-toi du micro, tu t'éloignes.
Donc partout où il faudra, organisons-nous pour l'autodéfense et la lutte collective face aux politiques réactionnaires et identitaires. C'est communiqué des relations extérieures de la Fédération anarchiste. Ça a été signé le 9 mars, début du mois de mars, voilà, de cette année 2024.
Voilà. C'est inadmissible.
Bah oui.
Ouais.
Voilà le texte. Très bien. Il y a un peu de musique ou...
Ou quoi ? Je sais pas.
Non, sinon je...
Est-ce qu'on met un peu de musique, Henrik ?
J'ai le temps de vous dire que voilà, c'est l'extrait du Monde Libertaire du mois d'avril. C'est le 18-60, présenté la semaine dernière. Hein. Avril 2024.
Oui, c'est, donc on peut lire le communiqué
dans le Monde Libertaire.
Dans le Monde Libertaire d'avril.
Oui, d'avril, voilà. Oui.
D'accord, effectivement.
Voilà, avec y a beaucoup de trucs sur les groupes à jouer. Le groupe de Merlieu, le groupe Kropotkin, un groupe rural qui explique un petit peu comment le groupe fonctionne. Paris, il y a le groupe Pierre Bénard. Voilà, il y a un article aussi sur le groupe Pierre Bénard. Alors, le groupe Kropotkin, c'est signé bon, par le groupe lui-même. Sinon, ben oui, on en connaît aussi des individus très connus à l'intérieur du groupe. Mais sinon, là, le groupe Pierre Bénard, eh bien, c'est Alain et Hélène, voilà, qui signent cet article. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis Jean-Marc Reynaud, encore, hein, Armons-nous et partez. C'est dans les faits divers, hein. Fait d'hiver, mais comme en hiver, alors on va lui dire, hein, Jean-Marc, attention, ça y est, l'hiver est terminé. Ça restera quand même des faits divers. Celui-ci, je ne sais pas, c'est sur le... Je ne l'ai pas lu, mais ça parle, bien sûr, Armons-nous et partez, la Crimée, voilà, la Crimée, l'Ukraine, la Russie, voilà, tout un article. Arrêtons le génocide à Gaza. Tout le monde le dit, hein, Israël, Palestine, arrêtons le génocide à Gaza. Même les Américains, on a l'impression qu'ils le disent. Et donc, enfin, tous ces gens-là, quand même, même s'il y a des morts et tout, ils s'en foutent, hein, de tout ça. Les otages, ils s'en foutent, hein, dès le départ, on le savait. Mais bon, c'est tout, c'est faire la guerre, ça marche. Hein,
c'est Netanyahou qui s'en fout des otages, certainement.
Netanyahou, il s'en fout, mais je pense que les Américains, ils s'en foutent aussi un peu, mais bon... tout ça ramène énormément d'argent, hein, parce que dès qu'il s'agit des armes, c'est colossal. Hein.
Oui, ils vont pas tarder à ne plus recevoir d'armes, justement, parce qu'ils font tellement de drames humanitaires, ils provoquent tellement de drames humanitaires et ils provoquent tellement de crimes de guerre que les États-Unis sont en train de sourciller et se demandent s'ils vont continuer à armer Israël parce que c'est beau, trop c'est trop. Et puis Netanyahou, il est borné et il essaye de penser à sa survie politique. Malheureusement, sa politique, les Israéliens sont de moins en moins enclins à l'accepter, sa politique actuelle, en tout cas.
Ah bah, elle est difficile quand même.
Oui.
Mais enfin, lui, moi, je pars toujours du départ qu'il a dit, on rentre en guerre. Hein, donc,
tout à fait.
À partir de là, c'est un peu, ça paraît drôle de dire, oui, mais il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. On le rejette tout de suite. Il dit, on part en guerre. C'est catastrophique, quoi, pour moi.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et puis les autres, ils sont dans les élections. Alors avec les élections, il peut se passer tout et rien, quoi.
Oui, on craint effectivement.
Les élections aux États-Unis, c'est des élections minables, hein, d'entrée. Hein,
oui.
Bon, c'est pas le peuple représentatif qui va voter, qui va faire quelque chose pour
que ça bouge. Malheureusement.
Quoi. Eux, ils sont du même bord. Hein. Moi, le parti républicain ou le parti démocrate, c'est pareil. Hein, vu d'ici, c'est pareil, hein, tout ça. C'est des fortunés, des milliardaires qui jouent, quoi.
Oui. Ouais.
Voilà, donc... Et puis, malheureusement, les Palestiniens, personne n'en veut, apparemment.
Oui.
Voilà, tout autour...
La Jordanie qui est déjà bien accueillante pour d'autres, effectivement, notamment les réfugiés syriens, etc. La Jordanie accueille, mais... elle accueille, mais...
Les Égyptiens n'en veulent pas.
Voilà, par exemple.
Les Libanais.
Les Libanais, c'est pareil. Ben,
le gouvernement, hein.
Le gouvernement, oui.
On ne met pas les gens dans le truc, hein. Tous ceux qui dirigent tout ça.
Il n'y a aucune raison pour les virer de leur territoire.
Mais après...
Il n'y a non plus aucune raison pour qu'en Cisjordanie, on considère que d'après la Bible, c'était ceci ou cela.
Voilà.
Et donc, ça donne le droit de construire,
des colonies.
Voire d'y aller de façon violente contre les agriculteurs ou les nomades qui sont là.
Oui. Ah, mais c'est un livre de loi, la Bible. Hein.
Comment ?
C'est un livre de loi, alors.
Oh là là.
Oh, oui,
c'est quand même grave que ces gens soient au pouvoir. Sont en or.
Tu veux dire la Torah, tu veux dire.
Non, mais...
J'interromps ce programme musical.
Livre biblique, disons. Oui, la Torah, je n'ai jamais lu la Torah, je n'ai jamais lu la Bible, mais c'est un gars du gouvernement, ou proche du gouvernement, réputé extrême droite, en Israël, qui parlait comme ça de ces territoires, donc, qui pour lui étaient israéliens, c'est tout, voilà, c'est à nous, ça a toujours, bon là en ce moment, mais ça a toujours été à nous, ça reste à nous, et il refusait de parler de Cisjordanie, c'est des territoires où, voilà, à nous, et c'est
bon. À nous, oui.
Ben non.
Ok.
J'interromps ce programme.
Oui. C'est juste une question de rapport aux autres aussi. Hein. C'est quand même grave, quoi.
Allez, interrompons ce programme, Henrik.
J'interromps ce programme, donc.
Oui.
Allez, j'interromps ce programme.
Pour une page de publicité.
Ouais, exactement. Radio Libertaire, The Past and On Radio Show. Alors, oui, il s'assoit. Alors donc...
On vient d'entendre, c'est beau ça.
On vient d'entendre Bei Quang. Bei Quang, c'est une...
Très sympa.
Une chanteuse des années 30, une chanteuse chinoise. C'est extrait d'une vieille compilation. Pardon, excusez-moi. Enfin, d'une compilation.
Une compilation, oui.
Une compilation de 2004, il me semble. De divas, de chanteuses shanghaïaises, de Shanghai. J'aime bien, moi.
Bah oui, puis le piano, c'est simple. pas pour moi, je fais pas de musique moi, mais c'est simple à entendre comme ça et ça marche toujours, ça traverse les époques. Hein.
Baekwang. Ouais. Il y aura un autre titre tout à l'heure de Baekwang. Il y a plein d'autres chanteuses hein,
ah oui.
sur ce disque. Avec il y a un autre CD où c'est repris version moderne, un peu house, un peu comme ça, down tempo pour rafraîchir les titres. Mais je préfère quand même les versions originales des années 30. On trouve sur ce CD, par exemple, Li Xiangyan, Baekwang, donc, mais aussi Choi Xuan, Shang Lu, Yao Li, Gong Xiuxia, Man Ping, Ouyun Feiying, Gu Ying, Wan Reimei et Lili Hua. Et Shou Swan, je l'ai déjà dit. Et puis voilà,
C'est assez original, en tout cas, comme compilation.
C'est surtout que, en fait, ça accompagne ce CD de revisiter à la sauce moderne. Mm-hmm. Plutôt, comme je disais, house et down tempo pour des bar lounge et autres restaurants comme ça pour bobo quoi. Donc après cette petite, Yves
va peut-être nous parler d'agro-industrie, je suppose.
Petite incartade vers la Chine. Nous revoilà ici à Paris en ce vendredi soir. Et le vendredi soir, comme tous les vendredis, c'est The Poznan Radio Show.
Oui, alors l'agriculture. À vrai dire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai tapé sur Internet entreprise agricole suivie de financiarisation. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelle le rapport sur la propriété des terres agricoles en France. À qui profite la terre? C'est l'état des terres agricoles en France numéro 2 de 2023. Et c'est fait par un groupe qui s'appelle, une association qui s'appelle Terre de Liens. Donc vous allez trouver sur Internet à tête chose, parce que j'ai bien un document, mais il fait 70 pages. Donc je vais avoir du mal à le résumer. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'ils ont... Bon, ça, c'est le premier document que j'ai trouvé. Je vais faire le tour. Le deuxième document que j'ai trouvé, c'est un truc qui s'appelle financiarisation de l'agriculture, ou comment dénaturer notre agriculture en titres financiers, avec un certain nombre de thèses. Qui tire son épingle du jeu? Qui signe la fin de... L'agrobusiness signe-t-il la fin du modèle familial? Quand le loup entre la... Quand le loup entre dans la bergerie. Et enfin, un point de vue de la coordination rurale, mais qui regroupe ce que j'ai trouvé sur le tas, qui recouvre ce que j'ai trouvé dans les autres documents également. Donc, il semblerait que de ce côté-là, les gens soient à peu près sur la même ligne, à savoir, il y a un danger à la financiarisation de l'agriculture. Je vais expliquer un peu de quoi il retourne. Le premier, le rapport sur la propriété des terres. Ce qui m'a étonné, c'est que dans les premières pages, alors il faudrait se procurer le truc, c'est sur Internet, c'est un document qui fait à peu près 70 pages. Les grands titres, c'est opacité, lever le voile de la propriété, accès à la terre des propriétaires influents, enfin financiarisation des investisseurs non agricoles à l'assaut des terres, et enfin des recommandations. Et... ils font un certain nombre de repères historiques sur qu'est-ce que la propriété des terres agricoles en France, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Et enfin, ils disent ce qui suit, à savoir que il y a eu une première étude sur des enquêtes donc, qui ont été menées par le service statistique du ministère de l'Agriculture pour étudier la structure de la propriété des terres agricoles. Et ben, figurez-vous que ces enquêtes, elles datent de 1981 et 1992. Elles font encore référence parce que il n'y en a pas eu depuis. Et donc, elles exploraient un éventail de sujets, le profil sociologique des propriétaires des terres, les liens familiaux entre propriétaires et bailleurs, le prix du fermage en fonction de ce lien, etc. Depuis 30 ans, le ministère ne recueille plus aucune donnée. Alors, il y a bien des enquêtes statistiques. Le cadastre, il recueille des impôts, donc il y a un certain nombre de choses qui sont connues. En 1977, Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, s'alarmait. Aujourd'hui encore, l'administration, dit-il, refuse de connaître la propriété, espérant ainsi la protéger. Bon, donc ça commençait bizarrement. Et donc ils ont fait une étude en croisant différentes données, ils expliquent dans le document. Et ce que j'ai été assez surpris, parce qu'ils disent par exemple... On entend partout hein, qu'il y a la France ne compte plus que 496 000 chefs d'exploitation agricole. Bon, d'accord. Mais il y a 4,2 millions d'individus qui sont des propriétaires de surfaces agricoles utiles. C'est-à-dire 85% de la SAU française, 22 millions d'hectares, sont la propriété privée de 4,2 millions d'individus. Et la plupart d'entre eux ne sont pas agriculteurs, puisque la France ne compte que 496 000 chefs d'exploitation agricole. Donc les propriétaires détiennent en moyenne des parcelles d'environ 5 hectares. C'est une moyenne, je ne sais pas le détail. Et cette surface peut sembler dérisoire comparée à la taille moyenne des fermes, des exploitations agricoles, donc, qui est de 69 hectares. Donc un agriculteur qui travaille des terres en location, et c'est le cas de la majorité d'entre eux, loue des terres à 14 propriétaires différents en moyenne. Alors, l'étude revient sur les inégalités de genre. On est quand même un peu plus féministe que l'Europe, disons. Le problème, c'est que les propriétaires, plutôt, pas forcément les exploitants agricoles, donc les propriétaires, ils louent à des gens qui vont exploiter les terres. Il va y avoir 13 millions d'hectares qui pourraient changer de propriétaire dans les 10 prochaines années, soit par l'héritage, les donations, la vente, dans une période qui va voir partir à la retraite donc de nombreux agriculteurs, puisque un quart d'entre eux a aujourd'hui plus de 60 ans. Et donc, ils se demandent plutôt quelles logiques seront à l'œuvre chez les propriétaires actuels et à venir face au départ d'agriculture. Ce qui se passe actuellement, lorsqu'un agriculteur prend sa retraite, et ben, s'il a plusieurs enfants, et ben, les enfants héritent parfois en indivision. Donc l'indivision, c'est bien, mais à la première génération de la division, les gens sont 6 ou 7, et puis ensuite ils sont 12, 13, 14. Et en fait, il y a des indivisions comme ça qui bloquent les situations, parce que si un nouvel agriculteur, par exemple, veut se lancer dans le métier, il va demander peut-être l'avis de la SAFER, qui va l'autoriser à le faire si son projet il est bon, puis ensuite il va aller voir les propriétaires plutôt qui pourraient lui louer des terres, et là il va se heurter à il faut qu'il aille voir 14 propriétaires, quand en plus il y en a qui sont en indivision pour la parcelle qu'ils ont, il faut que les gens qui sont en indivision soient d'accord, donc ça se complique beaucoup, disons. Voilà, donc actuellement, il y a, parmi ces fermes, il y en a 11% qui sont des sociétés agricoles, plus précisément des sociétés financiarisation, qui sont financiarisées. Vas-y. Et donc, ce qu'ils disent dans un petit résumé, c'est que les sociétés d'exploitation agricole cultivent désormais les deux tiers des terres agricoles françaises et commencent à en devenir propriétaires. Parmi elles, certaines sont des sociétés financiarisées ouvertes à des investisseurs qui ne prennent pas du tout part aux travaux agricoles. Et en prenant des parts dans les sociétés financiarisées, il est donc possible de prendre le contrôle de terres agricoles. Et donc il y a un marché des terres
qui est parallèle et non régulée, qui s'est développée et qui favorise la concentration des terres et l'agrandissement des fermes. Donc si le phénomène et les risques sont identifiés, les avancées législatives sont timides et loin d'être en mesure de réellement limiter la concentration des terres à l'œuvre, concentration parfaitement opaque. Ce qui, ça pose quel problème ? Le fait qu'il y ait des acteurs non agricoles tels que les acteurs financiers ou agroalimentaires au capital des sociétés, ça augure d'une nouvelle ère dans l'agriculture où le travail de la terre doit être en mesure de rémunérer les investisseurs et où la rentabilité financière préside à l'orientation des usages de la terre. En effet, ce qui se passe, c'est que la société financière qui prend le contrôle, elle garde bien sûr un agriculteur pour toucher la PAC, elle-même est capable de toucher la PAC dans certains cas qui sont prévus par les textes, donc ils s'arrangent pour pouvoir la toucher dans certains cas. Et ensuite, que fait l'agriculteur ? Ben, l'agriculteur, on lui dit, nous, on doit rémunérer nos actionnaires, et donc il faut que vous fassiez tant pour qu'on puisse rémunérer les actionnaires. Donc ça prend le pas sur une logique agricole. C'est-à-dire l'agriculteur qui est dans ce cas, il va se trouver face à une obligation de filer du fric suffisamment, de gagner suffisamment de fric, disons, pour pouvoir satisfaire aux financiers qui sont propriétaires. Et donc ça va le conduire, par exemple, à arrêter une polyculture pour faire une monoculture. La monoculture, elle est très mal considérée au niveau de la biodiversité. Hein. Ce qui est bien pour la biodiversité, c'est avoir des cultures qui soient très variées, côte à côte, de façon à éviter d'utiliser beaucoup de pesticides. C'est ce que des gens arrivent à faire, quitte à expérimenter pour certains, et d'autres, ils arrivent très bien en mettant différentes variétés sur des longueurs comme ça, côte à côte, de façon à ce que les insectes se développent, à ce que les plantes régulent d'elles-mêmes les phénomènes, et ils arrivent à tirer profit de l'affaire de la terre de cette façon. Alors, quand on fait la monoculture, bah, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de grandes étendues et puis on met du glyphosate, bon, ou des trucs analogues. Et puis on passe à je ne sais pas quelle vitesse avec le tracteur, parce que ce n'est pas la peine de labourer la terre. Si ça marche, donc on va reconstituer un peu de vers de terre à l'intérieur et de systèmes biologiques, mais avec les intrants qu'on met, ça risque de ne pas leur réussir beaucoup au vers de terre. Voilà, et donc on a une sorte de changement qui se produit sur pourquoi est-ce qu'on cultive telle et telle chose. Il y a par exemple dans les Bouches-du-Rhône une boîte qui s'appelle Euricom, qui est le premier groupe européen dans le négoce du riz, qui possède 1300 hectares de culture de riz sous indication géographique protégée. C'est une entreprise qui passait jusqu'à là par la contractualisation avec des agriculteurs et qui choisissent désormais d'acquérir la maîtrise directe des terres. Donc j'ai cité cet exemple. Autour de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Chanel et L'Oréal, tout le monde connaît, ici, à Paris en tout cas, achètent des parcelles à prix d'or. Non, je plaisante, mais donc Chanel et L'Oréal achètent des parcelles à prix d'or entre 500 000 et 1 million d'euros, soit 2 à 4 fois le prix des terres localement, pour produire leurs plantes à parfum. Depuis des années, Auchan, fleuron de la grande distribution, achète des terres agricoles par le biais de sa foncière Cetrus France. Auchan est propriétaire de plus de 800 hectares de terres agricoles dans le but d'approvisionner directement ses magasins. Certains responsables SAFER s'inquiètent donc de l'intérêt du secteur de la grande distribution pour des terres agricoles. Ces transactions qui relèvent encore aujourd'hui l'anecdote, sont autorisées à titre exceptionnel, mais elles constituent néanmoins des précédents qui ouvrent une brèche dans la doctrine longtemps affichée d'une terre réservée à ceux qui la travaillent. Et la terre devient un facteur de production intégré à la chaîne de valeur de nombreux produits industriels. Donc le paysan, là-dedans, il devient un gérant. L'agriculteur garde son statut souvent pour continuer à bénéficier des aides réservées aux agriculteurs, comme les aides de la PAC, et les décisions stratégiques sont prises par le conseil d'administration de la société, et poussées à l'extrême, il s'arrange également pour avoir des aides de la PAC. J'ai perdu mon exemple plus précis. Donc, ça c'est page 57 de ce rapport de ce groupe qui s'appelle donc Lien de la Terre, c'est ça ? Il y a un autre exemple en Bretagne, un groupe qui s'appelle Alto, A-L-T-H-O, qui est implantée depuis de nombreuses années, entreprise familiale, qui revendique de travailler avec 250 agriculteurs bretons, donc image locale, proche des paysans, qui s'incarne dans son produit phare, les chips Brest, estampillés, produits en Bretagne. Bon, alors, pour faire des chips, il faut des pommes de terre. Pour faire des pommes de terre, c'est des cycles de rotation tous les 7 ans. Il faut une terre très très fine. Donc le problème de la terre très très fine, c'est lorsqu'il pleut, la couche elle s'en va, la couche de terre elle s'en va. Et souvent les terres sont un peu en pente, quoi. Le groupe Alto cherche à maîtriser la terre par différents moyens, dit cet article. Les partenariats avec les agriculteurs bretons sont à peu près remplacés par une maîtrise directe des terres. Depuis une dizaine d'années, on a vu émerger une nouvelle pratique, la prise de contrôle des terres agricoles via des montages sociétaires pour reprendre des fermes lorsque les agriculteurs partent à la retraite. Donc, un agriculteur confirme, on était en contact avec Alto depuis 12 ans, comme on n'avait pas de repreneur, ça nous a paru plus simple, on s'est occupé de rien, on a transmis 30 hectares qu'on avait en propriété, et maintenant Alto fait travailler les ouvriers agricoles sur ces terres. Voilà. Et donc, il y a une page, je ne vais pas tout vous dire, précisément au niveau des... Bon, ce sont des sociétés sous la forme de la SCEA. Et il touche en fait Alto rachète les parts de les trois SCEA touchent des aides de la PAC totalisant 40 000 euros par an. Quant au groupe Alto, il a touché sur deux années 1,5 million de la PAC au titre d'un soutien aux investissements physiques via une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural qui s'appelle le FEADER, le FEADER. Bon, voilà. Et donc, ce que dit Samuel Servel, paysan voisin de l'usine Alto, qui résume les conséquences de cet appétit du groupe pour les terres agricoles, c'est que, ouvrez les guillemets, la recherche par l'agro-industrie d'une image de terroir est à double tranchant pour les territoires. Avec Alto, ce sont des milliers d'hectares autrefois dédiés à des productions variées qui sont désormais consacrés à la pomme de terre. Et le problème... Donc, la pomme de terre, c'est qu'il faut tamiser la terre pour la rendre très fine, ce qui rend le sol extrêmement sensible à l'érosion. Dès qu'il y a un orage, une partie de la couche fertile est emportée. Puis, les cultures sont traitées avec des produits phytosanitaires qu'on retrouve ensuite dans l'eau. Et d'année en année, de plus en plus de terres sont concernées, car la culture de la pomme de terre demande des rotations de 7 ans. Tous les ans, pour fabriquer des chips bretonnes, il faut donc trouver de nouvelles terres. Donc il y a un vrai enjeu écologique, sans parler du besoin de préserver une production alimentaire locale. Donc en sécurisant un approvisionnement local pour ces chips, Alto impose en fait une agriculture intensive en concurrence directe avec les activités agricoles qui pourraient répondre aux besoins alimentaires du territoire. Et la spéculation sur les terres est importante et pour protéger les terres familiales, il dit qu'il a vendu ses terres à la foncière Terre de Liens, c'est-à-dire Terre de Liens, cet organisme dont j'ai le résumé là, s'arrange pour permettre à des agriculteurs, notamment débutants, il leur loue des terres. Voilà.
En fait, si j'ai bien compris, il y a un organisme qui s'occupe de réagricoliser les terres.
C'est ce mouvement qui s'appelle. Alors, je n'ai pas gardé les pages correspondantes, mais il rachète des terres effectivement et il les alloue à des jeunes agriculteurs qui ont toutes les difficultés du monde à s'installer à cause des problèmes donc de morcellement. Eux, ils ont besoin pour arriver à s'installer d'une cinquantaine d'hectares. J'ai l'exemple d'un boulanger que j'ai entendu récemment. Et il n'a d'ailleurs pas eu son truc parce qu'il y a un des propriétaires qui n'a pas voulu au dernier moment. Étant donné que un propriétaire possède en gros 4 à 5... Des terres d'une superficie de 4 à 5 hectares, il faut qu'ils voient 14 propriétaires, à peu près 10 à 14 propriétaires pour se faire une exploitation dont il arrive à vivre. Quoi.
Est-ce que tu as une idée du pourcentage justement de ce genre de terre qui est réattribuée vraiment à l'agriculture, la vraie agriculture ?
Aucune idée.
Non, pour l'instant, on ne sait pas en fait.
Non, là, ce qu'ils disent, c'est que... Attends, j'ai trouvé un pourcentage à un endroit...
Non, je n'ai pas gardé ça. Mais je vous invite vivement, parce que là, on a un temps limité. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a dans ce rapport. C'est extrêmement intéressant. Et ce qu'ils disent, c'est 42% des fermes qui sont des sociétés, donc 20% qui sont sous forme de... Alors, je vais peut-être intervertir parce que c'est en noir et blanc, de EARL, d'autres c'est des GAEC, et d'autres c'est donc 20% pour les EARL, les GAEC c'est 11%, et les sociétés financiarisées, ça représente 11%. D'accord. Donc, ça fait un total de 42%. Non, une fois qu'elles sont financiarisées, bon, à vrai dire... c'est difficile de revenir en arrière.
Oui, elles sont mortes, quoi.
La coordination rurale, elle dit des choses d'une façon un peu différente, mais elle dit, pour citer ce que j'ai trouvé, donc, elle réfute que la financiarisation soit le fruit d'une évolution spontanée et entraînée par la mondialisation. Elle est en réalité celui du renoncement des élites agricoles et politiques à un autre avenir est possible. Bon, enfin, l'objectif est premier de notre syndicat est de conserver des secteurs nombreuses, libres et indépendantes et dégageant tout un revenu suffisant pour vivre, investir et installer un successeur. L'ACR, Coordination Rurale, donc proche de l'extrême droite, si j'ai bien compris, est attachée à cette chaîne des générations gérant elles-mêmes leur outil de travail et ne peut se satisfaire d'un système qui, à terme, asservit ou supprime les agriculteurs. Alors, il serait temps qu'ils se réveillent, effectivement, parce que depuis un moment, la disparition va bon train. Et ce que j'ai cherché également sur Internet, pour sortir un peu de ce truc-là, c'est un texte de loi qui est en 2006, mais vous allez comprendre tout de suite si je retrouve mon truc, sinon bah, je vais demander deux minutes. C'est la loi Bussereau, qui date de 2006. Voilà, je suis sur Légifrance, loi numéro 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole de Légifrance. Bon, il s'ouvre mon truc. Je vous lis le titre, juste le titre. Chapitre 1er, promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs. Rien à dire. Chapitre 1er, faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole.
Effectivement, c'est flagrant.
C'est clair, c'est annoncé.
Et c'est l'État qui le fait.
Oui.
C'est l'État.
Mais
incroyable.
Mais je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien. J'observe que c'est comme ça, ça s'est passé en 2006. Ça nous est passé sous le nez, on n'a rien vu.
Oui, oui.
C'était Chirac le président. Ça devait être... Ben, j'ai tout ça à la fin. Le Premier ministre Dominique de Villepin, Jean-Louis Borloo à l'emploi, Thierry Breton à l'économie, Pascal Clément garde des Sceaux, Xavier Bertrand ministre de la Santé, Dominique Bussereau ministre de l'Agriculture, François Baroin, tiens, il était là, ministre de l'Outre-mer, et il est resté dans l'Outre-mer, j'ai l'impression. je confonds avec l'Outre-tombe, excusez-moi.
Ah oui.
Musique, Hendrik
ah. Oui, musique.
Merde, j'ai... J'avais fermé mon micro.
Oui.
Tu t'es laissé bercer par...
Oh ouais, je m'endormais, là.
Je m'endormais. Mais pourtant, c'est primordial, justement. C'est,
mais je ne sais
ce
pas
sujet
que...
est primordial.
D'accord,
primordial.
Je veux bien.
Allez, allons-y. Oui, il a été, oui. Thank you.
J'interromps ce programme de Radio Libertaire, de Post Non-Radio Show. J'interromps donc ce programme pour dire un mot. La semaine dernière, j'ai diffusé Radio Code, un CD de Tishiji et Mikawa. Et Radio Code, c'était une émission d'une radio hollandaise qui s'appelle Radio 100, Radio 100, je ne sais pas le dire en néerlandais, donc Radio 100 à Amsterdam. Et j'ai trouvé un petit texte qui nous raconte vite fait l'histoire de cette radio. Alors Radio 100 est une station de radio pirate, je crois qu'elle est encore pirate, j'en suis pas sûr, qui diffuse 24 heures sur 24. Il y a environ une cinquantaine d'émissions à l'antenne. La création de cette radio commence au début des années 80, lorsqu'apparaît une radio de musique alternative qui s'appelait Radio Goth. À cette époque, il existait déjà une radio de squatteurs qui diffusait des informations sur les squats et des infos politiques. D'autres stations musicales sont ensuite apparues et ont commencé à partager des fréquences et des équipements, des radios telles que Rabotnik et FM, DFM et Factum FM. Alors, au début, il s'agissait principalement de musique de ce moment-là, de New Wave, etc. Puis ça a englobé plus de styles musicaux, plus d'expérimentation avec la musique, avec les mots, avec les sons, etc. Alors pendant un certain temps, ces stations ont partagé donc fréquences et matériel, et puis elles ont fusionné pour devenir Radio 100. Le nom vient tout simplement de la fréquence sur laquelle elle émet, c'est-à-dire le 100 MHz. Aux Pays-Bas, en 86, c'est une radio locale, légale, qui faisait aux Pays-Bas, vers 86, c'est une radio locale légale qui faisait son apparition. Certains membres de Radio 100 ont fondé une locale, cette fameuse locale, Radio X. Au début, ils partageaient des émissions d'infos aux heures de grande écoute avec Radio 100, mais ils ont été contraints d'arrêter à cause du statut légal de Radio 100. Et donc Radio X est maintenant devenu Radio Amsterdam et complètement assimilé dans le paysage radiophonique légal d'Amsterdam. Donc après, Radio 100 a collé littéralement au mouvement musical de son époque, les années 90, la house music, les rave parties. Radio 100 se faisait l'écho et l'organisatrice également. Et puis il y a eu toutes sortes de développements sonores, de mixage, de musique électronique, d'expérimentation, etc. Donc, en 1991, il y a eu une saisie du matériel et des arrestations des animateurs de la radio, mais ça n'a pas duré. Elle a repris ces émissions grâce à un énorme soutien qu'elle avait dans la population, dans une certaine frange de la population. La personne qui écrit ce texte, dont je n'ai pas le nom, où est-ce qu'il est quelque part, Hans Stieber, dit que pour lui, en fait, c'est la meilleure radio du monde. Désolé Hans, mais non, c'est Radio Libertaire. Alors, il nous remet une couche sur les programmes, c'est assez large, il y a des DJ, il y a de la musique, des talk shows, du mix, des expérimentations sonores. Elle fonctionne comme en association, les gens se réunissent une fois par mois pour décider, etc. Et toutes les émissions cotisent financièrement pour faire fonctionner le média. Voilà, il dit aussi que c'est assez basique au niveau du matériel. C'est une table de mixage disco étendue, 8 canaux. Il y a 2 platines vinyle. C'est bizarre, ça ressemble à ici. Il y a 2 platines vinyle techniques, il y a 4 platines cassettes, 3 lecteurs CD, nous on en a plus quand même. Et un ordinateur, et 2 enceintes et un récepteur complètent l'installation. Donc on va dire que ça reste une radio, entre guillemets, sans être péjoratif, amateur. Et il a fini par dire que beaucoup de gens qui ont débuté sur Radio 100 maintenant travaillent dans des radios publiques et commerciales. Voilà, c'était un petit résumé sur Radio 100, ex Radio X, radio hollandaise située à Amsterdam. Et si un jour on va à Amsterdam, ben on écoutera cette radio. Merci donc au texte de Anne Stieber.
So set on it, how could we be wrong? Please tell me how. Love is so strong, I'd be willing to bet on it, how could we be wrong? Why should it ever die? Darling, you and I are so wonderfully happy today to throw it away now. Life is a song, if we build a duet on it, how could we be wrong? Thank you.
Life is a song, la vie est une chanson. D'aucuns disent la vie est une pièce de théâtre. Alf Lawley, lui, c'est une chanson. Ou Radio Libertaire, The Past Non-Radio Show, la vie est une émission de radio. Allô?
Oui, je suis totalement avec toi. Totalement d'accord avec toi. C'était un morceau instrumental.
Pas du tout,
il chantait. Ah non, il chantait, oui.
Voilà.
Eh bien, écoutez, alors, écoute, franchement, désolé, effectivement, mais là, il chantait vraiment
tellement
bien que c'était, ça se mélangeait à la musique et je n'ai même pas remarqué que c'était chanté. Voilà.
Oh là là, tu dors.
Non, pas forcément, mais effectivement. Mais c'était très, très jolie mélodie en tout cas.
Ça apparaît sur une compilation 3 CD consacrée à Cole Porter qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons et ça date également des années 30, 20, 30, puis aussi 40 et 50. Voilà. Life is a song. Ah, tu te rends pas compte que je chante, hein. Alors, Dil était parti dans le passé, là.
Non.
Si tu étais
non, parti... moi j'étais du même avis que Serge. Sa voix est musicale, c'est incroyable. Oui. C'est fort, hein, oui.
Oh là là.
Moi, je voulais dire simplement un coup de gueule de Justhomme. Alors, Justhomme, c'est
qui
un
c'est
personnage
celui-là?
Qui écrit, hein, qui fait pas mal dans le monde libertaire. Et puis c'est un coup de gueule, mais c'est une déclaration de guerre parce qu'il cite un peu des choses évidentes pour nous, mais enfin qui sont à garder et à appliquer surtout. Voilà. Alors il dit, il ne faut pas oublier que la lutte des classes est plus que jamais d'actualité. En cette période, les politicards n'ont que mépris pour nous et nous imposent la misère et la pauvreté. Donc le discours de politique générale prononcé le 30 janvier 2024 devant les députés par Attal. Il dit la nouvelle chatmite du premier ministre. Il dit c'est une véritable déclaration de guerre, une chasse aux sorcières, une mise au pas des jeunes et ceux dès la maternelle, puis un embrigadement une fois en seconde. Il dit tout est dit, les maîtres mots sur l'autorité et le civisme. Et Attal, le nouveau Biddle, il dit c'est un bedeau capitaine d'armes, un Biddle. Il dit du gouvernement chargé de la discipline, des sanctions. Pour manquement aux ordres, il vient de déclarer la guerre aux ennemis de la République. Ce sont les enfants jugés délinquants, les parents. Il a élaboré un catalogue de sanctions. Il prévoit la militarisation des jeunes. Et cela ne laisse augurer rien de bon pour le peuple. Cette déclaration de guerre annonce une société qui penche de plus en plus vers une dictature. À savoir l'expérimentation de l'uniforme à l'école qui sera généralisée en 2026. Ne double